court fin novembre. Ce sera à domicile à Malaga pour la dernière danse de sa carrière.
Merci Cédric De Oliveira. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté.
Radio G.
h 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Et bonsoir, déjà la fin de semaine, on se retrouvera tout de même lundi prochain, rassurez-vous, avec... on sait pas encore, voilà, surprise à venir courant du week-end. En tout cas, mardi, nous serons bien avec le CCJC, le Centre Culturel Jean Carmet, partenaire de l'émission du côté de Mur-Érigné. Mercredi, on va parler du SCO hockey et aussi du spectacle L'Enquête 1920. Jeudi, nous serons avec un autre partenaire de l'émission, la commune de Loire-Authion, du côté à l'est de l'agglomération d'Angers. Ce soir, comme promis, nous allons parler des sismes. Vous le savez, si vous êtes des fidèles auditeurs, auditrices de l'émission, les semaines d'information sur la santé mentale avec le collectif organisateur ici à Angers. Ça se passe du 7 au 20 octobre, un temps fort pour sensibiliser au sujet et déstigmatiser aussi les représentations autour des maladies psy. Mais rappelez également que nous sommes tous à chacun concernés de près ou de loin. Cette année, JO oblige, le thème tourne autour du mouvement et du lien avec notre climat mental. Nous recevons Sylvain Pinault, infirmier de la direction santé publique de la ville d'Angers, accompagné de Julie Caloc, infirmière psy, et Joséphine Régnier, psychologue en milieu carcéral. Clémence Bonaventure et Marie Saint-Val pour la RIFT, les étudiantes qui participent au projet des capsules que nous réalisons chaque année. Il y en a 9 cette année. Et petit bonus, on a eu la chance, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de faire une interview de détenus qu'on aura l'occasion d'entendre au cours de cette émission. Et au cours de cette émission, nous allons également entendre, vous l'attendez une semaine sur deux, l'accrocro de Charlie. Bonsoir Charlie, empare-toi du micro rapidement pour nous annoncer d'un mot. De quoi on parle dans l'accrocro ce soir ?
Eh bien, l'heure est grave. Non, je plaisante, mais la salle à crocro, c'est Papa Outé ce soir.
Papa Outé, autour de 18h20, ça va arriver un petit peu plus tôt que prévu. Topette, c'est parti, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Topette, Radio G.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant tout ça, elle s'empare du micro, elle est prête. Nolwenn pour le point sur les actus à Angers. Bonsoir Nolwenn.
Bonsoir.
3 semaines de précipitations en une seule journée hier.
Impossible de la rater, hier la tempête Kirk était de passage en Maine-et-Loire. Le département était d'ailleurs en vigilance orange. Le toit d'une entreprise dans la zone artisanale de La Méniane s'est effondré sous le poids de l'eau. Heureusement, aucun salarié n'a été blessé. Au total, les sapeurs-pompiers auront réalisé près de 80 interventions.
2 femmes condamnées pour avoir tenté d'assassiner l'ex-compagne d'une d'entre elles.
C'est un portrait narcissique qui a été dépeint d'Aurélie Doré, l'une des 2 accusées. La victime avait quitté sa compagne après des années d'emprise, mais l'accusée n'aurait pas supporté. Alors elle a monté un plan qui a été qualifié de machiavélique par la cour. Elle s'est servie d'Isabelle Delcomte, une femme décrite comme influençable, pour commettre les faits. Elles ont été condamnées à 18 ans de prison et 25 pour Aurélie Doré.
Les habitants d'une commune de Maine-et-Loire qui se mobilisent pour la sécurité de leur village.
C'est la gendarmerie de Saint-Martin-du-Fouillou, à l'ouest d'Angers, qui souhaite mobiliser ses habitants pour relancer la participation citoyenne. Ça consiste à assister les habitants à la sécurité du village. Ils peuvent ainsi signaler les démarchages frauduleux ou signaler un véhicule suspect. Attention, ils ne s'occupent évidemment pas de la sécurité de la population, qui relève de l'État, mais sont tout de même des alliés pour les policiers.
Merci beaucoup Nolwenn, qu'on ne retrouvera pas au flash lundi prochain. Normalement c'est Yaël qui devrait s'en emparer. Ceci dit Nolwenn, on te retrouve tout de suite puisque c'est toi qui mène l'interview de nos invités de ce soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Depuis 2 jours et jusqu'au 20 octobre, ce sont les SISM, les semaines d'information sur la santé mentale. Cette année, elles sont placées sous le thème « Santé mentale en mouvement ». Pour en parler, on est avec Clémence Bonaventure Marie Saint-Val, étudiante à l'ARIFT qui forme aux métiers éducatifs et sociaux. Mais on est aussi avec Sylvain Pinault, infirmier à la direction santé publique d'Angers. Également Joséphine Régnier et Julie Caloc, respectivement psychologue et infirmière psy à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire à la maison d'arrêt d'Angers. Donc pour les personnes qui auraient un petit peu de mal à définir, Sylvain, qu'est-ce que c'est la santé mentale de manière globale ?
Ah, question assez vague, mais ouais. pour caricaturer, enfin pas pour caricaturer, mais pour simplifier le trait, qu'est-ce que la santé mentale d'une manière générale ?
Alors bonsoir déjà et merci à Radio G de nous accueillir une nouvelle fois. La santé mentale, alors selon l'OMS, la santé mentale est une composante de notre santé, tout comme la santé physique. Et voilà, c'est aussi important que la santé physique. On en prend soin, on a tous et toutes une santé mentale. Et là où on a tendance à parler des fois de la psychiatrie, de faire l'amalgame avec la psychiatrie, où là on est dans des maladies, dans des troubles psychiques, la santé mentale concerne tout le monde.
Et pour parler plus du coup de ces semaines qui arrivent là, les semaines d'information sur la santé mentale, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un grand temps fort qui a lieu tous les ans pendant 15 jours, donc au mois d'octobre. Et l'objectif, c'est vraiment de déstigmatiser les personnes en situation de troubles, enfin porteuses de troubles psychiques, pardon, d'informer le grand public, de sensibiliser, d'informer le grand public, et puis de rassembler les acteurs qui portent tous des préoccupations pour la santé mentale.
Et Julie, en quoi c'est important d'informer sur l'importance du sport dans la santé mentale et sur la santé mentale de manière générale ?
Bonne question. elle est importante parce que, comme disait Sylvain, en fait, on se rend bien compte, et particulièrement dans le milieu carcéral où on exerce avec Joséphine, que la privation de mouvement, en tout cas la limitation du mouvement et du sport en général, ça influence l'équilibre de la santé, l'humeur, et ça peut aller parfois malheureusement loin aussi dans notamment des épisodes dépressifs. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est une vraie médiation qu'on appelle thérapeutique, un vrai outil pour faire lien aussi et pour permettre d'aller mieux. Donc voilà.
Et généralement, ce sont chez les jeunes que la santé mentale se dégrade le plus. En 2021, ils étaient 20% à être concernés par la dépression, alors qu'en 2017, ils n'étaient que 11%. Selon un rapport de Santé publique France, les jeunes se consacrent moins à la santé mentale que leurs aînés. Quel public, Sylvain, vous visez lors de ces semaines d'information ?
On a effectivement l'objectif de toucher tous les publics, mais on a du mal à toucher le public jeune, parce que c'est un public... Je pense qu'il y a jusqu'à peu se sentait pas forcément concerné par la santé mentale, ce qui tend à changer ces dernières années. Là, on a ouvert nos semaines là avec un ciné-débat lundi soir. La salle était remplie avec une grosse moitié de public jeune, donc c'est une réussite pour nous. Et l'objectif, voilà, il est de toucher tous les publics, mais on sait que le public jeune est vraiment impacté là depuis la crise sanitaire par les problématiques de santé mentale. Et puis juste un petit chiffre comme ça, parce que la thématique c'est le mouvement cette année. On note que pour 2/3 des jeunes, ils passent 2 heures par jour devant les écrans, contre 1 heure à faire de l'activité physique. Moins d'1 heure à faire de l'activité physique, et on sait que le ratio devrait être inversé normalement.
Et justement, en parlant d'activité physique, pardon, en quoi le sport il a un impact sur la santé mentale, Julie ?
Julie ou Joséphine, ou par exemple, importe. Qui pour distribuer la parole, Joséphine.
Notamment, lorsque l'on est en train de pratiquer une activité physique, on libère des hormones. Pour ne parler que de ça, l'impact sur les hormones et sur le cerveau. L'endorphine, c'est une hormone qui est sécrétée pendant l'activité physique et qui procure du plaisir, du bien-être. Et donc, pour ne parler que de ça, le sport peut avoir un impact à ce niveau-là. Après, de toute façon, un esprit sain dans un corps sain. Quand on prend soin de son corps, ben nécessairement on prend soin aussi de sa santé mentale. Le fait de se mettre en mouvement, Julie, elle en parlait, notamment dans les troubles dépressifs, on voit une perte de plaisir, une perte de motivation, une perte de mise en mouvement. Et le fait de enfin le meilleur remède pour ça, et notamment auprès de patients qui ont des troubles dépressifs, ça va être de pouvoir les accompagner pour se remettre en mouvement, justement refaire bouger leur corps et avoir toute une chaîne, un cycle vertueux.
Et qu'est-ce qui est inclus dans ce terme, justement, la mise en mouvement, comme le thème l'indique, c'est pas forcément du sport, Marie?
Effectivement, ça peut être à partir du moment où on va faire un mouvement, ça peut être juste se déplacer, aller vers l'extérieur. Ça fait partie d'une activité physique puisqu'il y a une mise en mouvement. Et c'est pour ça que c'est important de préciser que ce qui est intéressant, c'est vraiment l'activité physique et non pas plus faire du sport, parce que faire du sport, ça peut parfois faire arrêter des personnes qui peuvent se dire « Ah, moi, j'aime pas le sport, j'ai pas envie d'en faire. » Sauf que on peut juste, en voulant sortir, en marchant 10 minutes par jour, s'aérer peut permettre, ou même juste faire des activités chez soi, faire du ménage, de la cuisine. Ça permet aussi d'améliorer, on peut dire, sa santé mentale. Enfin, nous, on a pu le rencontrer en interviewant des personnes qui avaient des troubles psychiatriques, qui expliquaient que juste le fait de sortir, de se balader autour de chez elles, ça diminuait parfois les symptômes et ça aidait à un bon maintien dans leur vie quotidienne.
Pour parler plus précisément, Sylvain, à Angers, quelles sont les actions qui vont être mises en place sur ces semaines d'information?
Alors, on a tout dit, voilà, pour préciser, donc on est un collectif organisateur au niveau local des semaines d'information santé mentale, donc au niveau de l'agglomération angevine. Et on fait, voilà, pas mal d'actions différentes. Donc, on a, voilà, notamment la création de podcasts ici à Radio G. Et cette émission, on fait un ciné-débat, il y a des expositions d'œuvres de patients, des portes ouvertes de structures aussi d'associations avec lesquelles qui sont dans le collectif. Et notamment, il y aura un gros temps fort. Alors, il y aura une rando vélo mardi prochain organisée par l'UNAFAM, qui est l'Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques. Pour ouverte à tous, hein, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis il y aura un gros temps fort aussi mercredi prochain, donc mercredi 16, où on organise un village en mouvement pour ma santé mentale sur l'esplanade Cœur de Maine, où là on peut venir à la rencontre de plein d'associations, d'acteurs qui proposent de l'activité physique adaptée, et puis d'autres amener de l'information, voilà, pour le grand public.
Voilà, on est qu'au tout début des SISM, des semaines d'information sur la santé mentale, un événement national, mais nous on s'intéresse forcément à ce qui nous concerne sur notre zone d'émission, ce qui se passe ici à Angers et puis aux alentours. Alors Clémence n'a pas encore parlé, mais rassure-toi, on te donnera le micro dans quelques instants tout à l'heure, puisqu'on va aussi parler du projet avec la Rift, comment tout ça vient s'inclure dedans. On va faire un tour en prison d'une certaine façon, grâce à l'opportunité qu'on a eue, mais ça on va en reparler dans quelques instants. Juste avant, il se prépare, il s'empare du micro, il prend un casque. Voici que voilà la crocro de Charlie, c'est pas quel casque prendre.
Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter...
La crocro, la chronique de Charlie.
En voiture, Simone !
Non mais sérieux ? La crocro, la chronique de Charlie.
J'adore le hula-hoop !
Ironique, absurde, réfléchi, la crocro, la chronique de Charlie.
J'ai mangé une méduse.
Survolté, décalé, déjanté, la fofo, la folie de Charlie. Pfff.
Si vous avez écouté ma première crocro de cette année, je vous ai vendu du rêve, de l'exceptionnel. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'en est rien. C'était ma petite fantaisie portée par le renouveau qu'inspire la rentrée. Et j'ai moi-même cru à cette révolution. J'étais comme animé par le slogan « Le changement, c'est maintenant ». Et quand vint le moment d'écrire cette seconde chronique, j'ai tout de suite eu l'envie de parler politique. Et je m'étais promis de ne pas parler politique. D'une part, parce que la politique est un sujet qui m'attire et qui me repousse, et aussi pour ne pas me faire chambrer par Adrien, le chroniqueur Décathlon de Topette, le mercredi. Alors pourquoi la politique me repousse? La raison vient de mon père. Eh oui, c'est le moment révélation. Oui, mon père qui, pendant mon enfance, au lieu de dialoguer avec ses enfants, au lieu de parler pour qu'on sache qui il est, nous déversait les sujets d'actualité qui n'avaient rien à voir avec la vie de notre maison. « Oh là là, ce Chirac et Sarkozy qui lui tirent dans les pattes », nous disait-il pendant que je mangeais mes pâtes. La politique le démangeait alors qu'il avait un mandat papalitique à honorer. C'est pour ça que je suis un peu perdu dans la vie, à tel point que je fais des chroniques sur Radio G, comme Adrien me l'a souligné. Moi aussi, j'ai des problèmes de santé mentale. Mais revenons à mon père. C'était un papa journal. On ne le voyait pas de la journée, donc il était heureux de nous rejoindre pour le repas afin d'ouvrir le Ouest France et d'y découvrir les informations sur Ouagadougou ou sur le ministre Tartampion. Je me souviens de cette anecdote. Un soir, à une époque où une partie des enfants avait quitté le nid, il n'y avait que mon petit frère et moi à table. Ce soir-là, je pose une question à mon père et il me répond par un vague « oui, oui », tout en maintenant sa concentration sur sa lecture. Alors je me tourne vers mon frère et je lui dis « ça, c'est un oui ta gueule ». Là-dessus, mon frère et moi, on se marre, assez pour que mon père sorte de son monde, parce qu'il aime l'humour, et peut-être qu'il sent qu'il n'est pas étranger à cette rigolade. Alors je lui explique, et ça l'amuse, et il reprend sa lecture. Ce « oui, ta gueule » nous a bien amusés avec mon frère, alors on a enchaîné avec « au fait, papa, je fume plein de cannabis, oui, oui, et moi j'ai tagué mon lycée, oui, oui, et j'ai gaulé 50 euros dans ton portefeuille, bien sûr ». En même temps, comme dirait Manu, ça m'arrangeait qu'ils ne suivent pas trop ma vie lycéenne, car j'y ai accompli quelques hauts faits d'armes que j'ai pu dissimuler. J'ai beau avoir fait de grosses conneries, c'est passé inaperçu. Enfin, presque toutes. Alors, je vous en parle de ça avec légèreté, mais un jour, ce papa outé m'a trop saoulé. Tous les enfants avaient maintenant quitté la maison, mon père vivant tranquillement avec sa compagne, et arrive le moment de Noël, où notre famille se retrouve autour d'une même table. Et voilà que mon père y invite le gouvernement, citant la dernière polémique suite au propos de « on s'en branle, bordel !» Si Noël, c'est juste un PMU où on mange de la dinde, non merci. Suite à cela, les choses ont changé. On arrive maintenant à parler des êtres humains présents à table, c'est formidable. Et finalement, je n'ai pas parlé politique aujourd'hui, DTC Adrien. Je me sens libéré, délivré. Par contre, la prochaine crocro, je devrais copieusement me lâcher. Et je rappelle, crocro, ça veut dire chronique. Quant à mon père, j'en parle au passé, mais rassurez-vous, il est vivant et il a beaucoup changé. Preuve en est, il ne reçoit plus le Ouest France qu'un jour sur deux.
La crocro.
Ironique, absurde, réfléchi, survolté, décalé, déjanté, la chronique de Charlie.
Ça fait déjà deux fois cette année que je t'envoie la mauvaise virgule, la crocro de Charlie, bien sûr à retrouver une semaine sur deux dans Topette le soir, entre 18h10 et 19h, mais aussi à tout instant en podcast dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Merci Charlie.
Topette, avec Claire Benoît, sur Radio G.
On continue avec les semaines d'information sur la santé mentale et grâce à l'appui de Joséphine et de Julie, Radio G a eu l'opportunité d'aller à la rencontre de trois détenus pour recueillir leurs témoignages sur leurs conditions de détention et l'impact que l'absence de mouvement pouvait avoir aussi sur leur santé mentale.
Alors techniquement, on est enfermé, oui, une grosse partie de la journée. Dans mon cas personnel, je suis auxiliaire de galerie, donc j'interviens pour la distribution du repas et l'entretien des locaux. Donc j'ai un peu plus de privilèges qu'un détenu ordinaire. C'est-à-dire qu'un détenu ordinaire, en moyenne, il est enfermé 21 heures sur 24. Hein, il y a des parcours de promenade. Je parle en dehors des activités évidemment. Et moi, je bénéficie de une petite heure et demie en plus dédiée au travail, à l'entretien des locaux, la distribution de la gamelle, voilà.
Cyril, Johan, votre quotidien, vous n'êtes pas auxiliaire, toi Cyril, t'es pas auxiliaire?
Non, moi je suis pas auxiliaire, moi je suis seul en cellule, je médite beaucoup, je dors beaucoup parce que j'ai besoin de sommeil, je regarde la télé, j'écris, parce que j'ai l'intention, j'écris mes mémoires pour l'instant, donc mon objectif c'est peut-être de sensibiliser un éditeur. Si j'ai ce projet-là, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie qui sont très fortes. On essaie de transmettre tout ce que j'ai vécu par écrit, en fait, quoi.
Donc là, c'est ce que tu fais en cellule, côté ouais, principalement en cellule. Est-ce que tu prends le temps des sorties qui sont proposées?
Pas beaucoup, je sors pas beaucoup. Je suis bien dans ma cellule, en fait, et puis je sors pas beaucoup. Je préfère rester, je sais pas. Peut-être que demain je vais sortir et puis après je vais, mais je me la fais en solo, quoi.
Cyril, t'es plutôt souvent en cellule. Jonathan, toi, t'es plutôt dans les couloirs.
Plutôt actif, oui, c'est
plutôt
ça.
Plutôt actif. Johan, serais-tu un profil intermédiaire? Toi, à quoi ressemble ton quotidien?
Je suis un entre-deux, ouais.
Un entre-deux, raconte-nous.
Oui, on profite de la moindre occasion pour sortir de cellule, oui. C'est sûr. Faut éviter de tomber dans ce piège de l'enfermement. Enfin, il n'y a rien de simple à la détention. C'est pas un endroit où il faut venir. C'est pas un club de vacances, quoi. C'est pas pour regarder la télé, enfin. Faut profiter de l'occasion de sortir de sa cellule en moindre occasion, quoi. Parler de la salle de sport, c'est plutôt ça, salle de sport, etc. Donc oui, il faut profiter un maximum.
Et qu'est-ce qui pèse le plus quand on est comme ça enfermé dans sa cellule? Est-ce que c'est vraiment l'absence, ne serait-ce que visuellement, de perspective, de relief? Est-ce que c'est...
Moi, je dirais,
Jonathan,
je dirais que le plus difficile, en fait, c'est qu'on n'est pas du tout maître du temps.
Oui.
C'est-à-dire que c'est pas nous qui possédons les clés. On est enfermé, on nous convoque pour des activités auxquelles on s'est inscrite. On est enfermé et après c'est pas nous qui décidons du temps passé, du moment où on va y aller. Et voilà, c'est vraiment la mobilité, elle est réduite au minimum.
Est-ce qu'il y a un moment particulier dans la journée où ça pèse le plus? Moi, je pense au soir. Ouais, tiens, Yvan, si tu veux près du micro.
Oui, on cogite, ouais, le soir. Une fois que les verrous sont mis sur les portes, etc. Parce qu'il y a un tour de clé, mais on sait jamais. On met deux verrous en plus, quoi. Mais donc quand on a ces verrous, là, on se dit on va être seul, quoi. Il y a pas d'activité, on va pas être appelé ni rien. Donc c'est là on va commencer à réfléchir et pour certains ça peut gâcher un peu la nuit, quoi. Le sommeil peut te gâcher.
Et toi, Cyril, alors près du micro comme ouais. Tout à l'heure comme au début.
Ouais, je suis souvent, mes pensées sont souvent tournées vers le passé. Mais dès que j'ai quelque chose qui vient, j'écris ce qui me vient dans la tête pour que c'est du sens pour moi et pour les autres aussi. Ça m'arrive de me réveiller la nuit, boire un café, fumer une clope, et puis dormir encore un peu, quoi. Donc, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Et j'essaye de prendre sur moi, mais c'est vrai que des fois c'est compliqué, quoi. La solitude c'est bien, mais des fois on aimerait bien parler à quelqu'un, quoi.
Le mouvement, en quoi ça vient un petit peu contrer ce sentiment négatif d'isolement? Comment le fait, toi, par exemple, Jonathan, de pousser les poubelles? Je t'ai vu pousser les poubelles. Je sais pas ce qu'il y avait dedans tout à l'heure. C'est peut-être le linge.
Non, c'est toutes les ordures ménagères. En fait,
c'est les poubelles
qu'on récolte. Voilà, tout simplement. Alors en réalité, moi, si je travaille, c'est pas vraiment pour l'aspect physique, parce qu'on peut pas dire que ce soit très physique par rapport à mon travail que j'ai à l'extérieur. En revanche, c'est un moyen pour moi aussi de sortir un peu de ma cellule, déjà pour commencer, d'être au contact des autres. Moi, je sais qu'en ce qui me concerne, je rate aucune promenade. J'ai vraiment un vrai besoin de prendre l'air, comme je dis tout le temps, prendre l'air, être au contact des autres. J'ai fait le choix de pas me désociabiliser, parce que j'ai une nature déjà à me tourner vers les gens, vers les autres. Et je pense que mentalement, comme on en parle, c'est important de se raccrocher à des expériences d'autres personnes. On n'est pas tout seul. Parfois, on a des parcours communs, parfois complètement différents. Mais pour autant, on pioche un petit peu dans les expériences de chacun. Comme tu disais tout à l'heure, le moment où on réfléchit le plus souvent, c'est le soir. Enfin, moi, ce qui me concerne, c'est le soir. C'est après la gamelle. Comme disait Johan tout à l'heure, on entend le dernier tour de clé. On sait qu'il n'y aura pas de rouverture avant le lendemain matin. Et là, on sait qu'on est enfermé. On sait que, voilà, on ne revoit pas le jour avant le lendemain, à part à travers une petite lucarne. Et là, c'est le grand moment d'introspection. Donc, malgré qu'on soit plusieurs dans la cellule, au moins deux, ça peut être un grand moment de solitude aussi. Donc on se réfugie un peu comme Cyril dans l'écriture. Enfin, moi je sais que j'aime bien écrire, ça me permet de décharger un petit peu mentalement. Et puis voilà, quoi. Mais le mouvement quotidien, voilà, c'est plus pour sortir, pour voilà, c'est pas vraiment physique. Il y a le sport pour ça, pour le physique, on se dépense. Puis des activités culturelles pour le cerveau.
Johan, tout à l'heure justement t'en parlais de profiter de tous ces instants qui sont proposés, qu'on peut saisir pour sortir et faire du sport, notamment se dépenser. Tu m'as l'air d'être sportif, est-ce que tu vas souvent à la salle de muscu ou profiter des activités sportives?
Non, honnêtement, mais je profite de cette peine là au contraire pour m'y remettre un peu. Mais l'hygiène de vie ici, voilà, c'est compliqué d'avoir une hygiène de vie comme l'extérieur. Donc on profite de se faire une hygiène de vie un peu. Profiter aussi de cette salle de sport, enfin, ce qui est proposé aux détenus. On pose la colère sur un banc muscu, peu importe, on s'en fout, mais on tape dans un ballon, on fait du ping-pong, enfin, on essaye d'évacuer un peu toute cette frustration, l'enfermement. Et ce qui est bien, la salle de, enfin, côté sport, c'est qu'il n'y a pas de filin au-dessus, voilà, on n'est pas vraiment renfermé, il y a plus d'air déjà. Il n'y a pas ce filin qui nous rappelle, voilà, t'es là quand même, rappelle-toi où t'es. On, ouais, on est un peu dans un, comme dans un city stade, dans les villes, etc., dans les city stades, c'est pareil. Donc oui, on a cette chance-là d'avoir ce petit d'avoir cet espace-là.
Quel regard vous portez, quel point de vue vous direz à des gens qui, eux, peuvent sortir, se mettre en mouvement, aller faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, c'est quoi, c'est bouger?
Profitez-en.
Jonathan?
Moi, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, en fait. Quand on est à l'extérieur, on est libre de son temps, en fait, c'est ça. Donc on a les clés pour sortir quand on le souhaite, voilà. Là, à des moments où on souhaite sortir, on ne peut pas. C'est comme un enfant qu'on confie dans sa chambre, voilà. Je pense pas que ce soit la bonne méthode, mais bon, voilà. Alors moi, je suis pas pour ça. Pour moi, c'est la société évolue dans ses mœurs et tout ça, mais les prisons, les maisons de retraite, tous ces côtés-là, tout ce qui exclut un petit peu les gens de la société active, on s'en occupe pas, j'ai l'impression qu'on est mis un peu de côté, et c'est un ressentiment.
Johan, toi, un truc simple, par exemple, qui te manque, c'est quoi? Marcher? Aller dehors et puis faire
ouais,
3 km
nature, ouais, mais voir des arbres, simplement, enfin... Ouais, se balader, aller sur les sites, etc., discuter avec des amis, boire un verre. Enfin, tout ça, c'est restreint. Et si le seul verre qu'on boit, c'est un café, quoi. Ça, c'est en prison. C'est le café.
Là, ouais, je peux même rajouter que là, quand on fait un tour de promenade, quand on voit notre promenade, on est content. Le jour, quand je serai dehors, j'enlèverai mes chaussures, je marcherai dans l'herbe. Je vous le dis franchement. On me dit, Johan, les arbres et tout, là, faut savoir qu'on a notre vision, elle est perpétuellement, obstruée par un grillage. Par des grilles. Et Johan le rappelait tout à l'heure, il n'y a que en sport extérieur que là on a un ciel ouvert. Il n'y a que à ce moment-là qu'on voit le ciel.
Sans le filet.
Exactement. C'est le seul endroit de la prison où on peut apprécier le ciel bleu comme cet été sans filet. Moi je voulais juste finir par, en fait, juste que je souhaitais partager mon expérience, mais que je ne souhaitais pas que les gens la vivent. Voilà, tout simplement.
Tu veux sortir un peu de là? Je peux t'aider à t'évader. Tu dois partager tes faisceaux de lumière dans 6 mètres carrés de poussière. Tu retiens tes larmes de colère. Justice pour entrer, cicatrice en retour. Tu aimerais rentrer sans repasser par la cour. C'est comme un cercle infini. Tu m'as dit c'est jamais fini. C'est comme attendre la folie, les yeux ouverts toute la nuit.
Andy de Théophile sur le 101.5 FM à l'écoute de Radio G. On est toujours en train de parler des SISM, les semaines d'information sur la santé mentale. Nous sommes toujours avec Sylvain, infirmier psy pour la ville d'Angers, avec Julie et Joséphine, infirmière psy, psychologue pour en milieu pénitentiaire, et aussi Marie et Clémence de la RIFTS. Alors là, je me souviens, la saison passée, on avait demandé aux étudiantes qu'est-ce que ça signifiait. On n'avait pas forcément le truc, on l'avait trouvé en cours d'émission. Préparez-vous, je vous poserai certainement la question. Mais avant tout ça, Joséphine et Julie, j'aimerais qu'on réagisse un petit peu au témoignage qu'on a entendu là de Jonathan, Cyril et Johan. Déjà, est-ce que ça a éveillé des choses en eux? Est-ce que vous avez entendu parler de... Est-ce qu'ils ont fait des retours particuliers suite à cette interview? Qu'est-ce que ça... Parce que le fait de parler, j'imagine que d'une certaine façon, on l'a aussi entendu dans la chanson de Théophile, ça permet de s'évader un peu, Joséphine.
Bah, tout à fait. Les retours qu'on a eus, c'est des retours très positifs. Les personnes détenues, c'est des personnes qu'on n'écoute pas. Leur parole, elle est globalement tue. Les murs, ils sont assez hauts pour qu'on ne sache pas ce qui se passe à l'intérieur. Et c'était aussi pour ça, nous, l'intérêt de pouvoir participer et de proposer une mise en mouvement au moins de leurs paroles, puisqu'ils ne pouvaient pas sortir de détention, évidemment. L'idée était de pouvoir que leurs paroles soient entendues une fois. Et c'est quelque chose qui les a beaucoup touchés. En tout cas, les trois personnes qu'on a entendues nous en ont fait des retours très positifs.
L'absence de mouvement a un impact concret, Julie, sur l'état mental, sur la santé mentale quand on peut plus bouger. On a tous des souvenirs un petit peu de la période Covid, des confinements. Ça impacte, hein, on n'est pas très joyeux après.
Ça impacte et c'est ce qu'on vient questionner. Enfin, moi, je me souviens, mon entretien d'embauche pour travailler à la prison, c'est ce qu'ils viennent chercher. Comment on gère un conflit, notamment en étant enfermé, comment on pense supporter l'enfermement. Notamment l'hiver, quand on rentre en prison il fait nuit, quand on sort il fait nuit, c'est quelque chose qui est assez pesant au quotidien, mais nous on a la chance de rentrer chez nous le soir, donc on a cette soupape là, mais la symbolique de l'atelier qu'on a pu animer avec toi et les personnes incarcérées, elle était très chouette, elle était assez militante aussi, que ce soit pour Joséphine et moi, mais aussi pour eux, faire venir, ouvrir les portes de la prison, c'est très fort symboliquement, parce que assez rare, et pouvoir libérer leurs paroles par ces podcasts, ça a été chouette pour nous, mais aussi pour eux. On a hâte de pouvoir écouter la capsule avec eux. C'est un truc qu'on va pouvoir faire en groupe. Et puis on aura d'autres réactions. Mais en tout cas, les retours individuels qu'on a eus sur l'enregistrement sont tous très positifs et a apporté beaucoup de valorisation pour eux, je pense. Oui.
Et quels sont qu'on comprenne bien un peu le quotidien, votre travail aussi, comment on accompagne justement pour essayer d'atténuer les effets de cet emprisonnement, de cette détention, parce qu'on peut pas, on va pas leur dire, on va faire une balade ensemble, c'est pas possible. Donc comment on essaye d'atténuer ça d'un point de vue dans la pratique psychologique, Joséphine?
Eh ben, c'est toute une histoire d'accompagner des personnes qui sont incarcérées. Ça veut dire les entendre dans leur parcours, dans des événements de vie qui ont pu être difficiles, essayer de justement les écouter là où peut-être c'est la première fois qu'on les écoute. Ça peut être les accompagner sur comment est-ce qu'on fait, l'impact de l'incarcération, ça peut être comment est-ce que je vais faire après, parce que encore ce matin j'étais avec quelqu'un qui me disait, mais maintenant que je sais que je vais pouvoir être aménagée, j'ai peur de sortir, est-ce que je vais pouvoir reprendre une douche de manière normale, est-ce que je vais attendre qu'on m'ouvre la porte, parce que ça fait plusieurs années que je suis là et je sais plus comment est-ce qu'on fait pour se comporter dans la vie normale, en fait. Tout est une perte de repères, une perte de mouvement, et donc comment est-ce qu'on fait pour se remettre en mouvement? Et c'est très effrayant pour des personnes qui sont là depuis longtemps.
Je vais laisser Sylvain reprendre le micro, puisque tout à l'heure tu faisais le parallèle, enfin je fais le parallèle avec ce que tu évoquais sur les écrans, parce que paradoxalement, c'est une question que j'ai posée aux détenus là qu'on a entendu, paradoxalement, quand on peut jouir de sa liberté, des fois il y a aussi une forme d'enfermement, on s'enferme soi-même, on se prive de mouvement. Est-ce que l'écran, justement, on peut faire un parallèle avec une sorte de détention également?
Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, oui, c'est une forme d'enfermement, de rester chez soi. On est dans une société qui évolue dans ce sens-là aussi. Hein, on peut tout faire de sa maison, on peut tout faire de chez soi, se faire livrer à manger, regarder la télé. Enfin, on voit bien pas mal de lieux extérieurs qui sont désinvestis aussi au détriment du chez-soi et qui font que les gens bougent de moins en moins. Oui, c'est une réalité. Et donc c'est aussi l'intérêt des collectivités, de tout le monde, de porter cette préoccupation d'aller vers, de sortir de chez-soi et de se mettre en mouvement et de recréer du lien social aussi à travers ça.
Joséphine, qui levait la main.
On parle de la semaine on parle des semaines d'information en santé mentale. Il faut savoir qu'il y a l'enfermement qui est lié, je sais pas, à un contexte sociétal, mais il y a aussi l'enfermement, et surtout, en tout cas, c'est notre thématique, des troubles psychiques. Un des symptômes qui est presque commun et transversal à tout presque les tableaux cliniques de troubles psychiques, ça va être l'isolement social, le repli sur soi, pour tout un tas de raisons. Mais si on fait le parallèle avec l'enfermement, le repli sur soi à la maison pour tout un chacun, on peut aussi faire le parallèle avec l'isolement d'une maladie psychique qui fait que on a du mal à faire le lien avec les autres, à être en contact avec les autres, les autres peuvent être menaçants ou perçus comme menaçants. Enfin voilà, il y a tout un tas de raisons. Et c'est vrai que ce qui enferme, enfin une des choses aussi dans le, qui peut enfermer, c'est la maladie mentale. Et c'est aussi en ce sens que c'est important pour nous de pouvoir sensibiliser au fait que, ben voilà, on peut, il y a des gens pour être, enfin être accompagnés, et essayer de lutter contre ça puisque c'est finalement la pire chose qui puisse nous arriver quand on est quand on traverse une maladie mentale, c'est de pas réussir à trouver quelqu'un qui va pouvoir nous aider à lutter contre cet isolement subi.
Oui, l'absence de mouvement crée un isolement, mais c'est pas forcément tant l'isolement physique que l'isolement du fait de plus pouvoir avoir de vie sociale. Et c'est là où tu fais le parallèle avec une maladie psychique qui coupe un petit peu des relations sociales. Et là, on parle des stigmatisations, des représentations de tout ça. On parlait aussi des jeunes tout à l'heure. Clémence, je te laisse t'emparer du micro, puisque j'imagine que tu as connu la période de confinement à un âge assez assez jeune, justement, même s'il y avait tous ces outils, ces réseaux sociaux pour pouvoir tenter de s'échapper, est-ce que tu as senti le poids de l'enfermement sur l'absence de mouvement sur le fait de ta santé mentale?
Je pense qu'on l'a tous un petit peu ressenti quand même, malgré le fait que j'avais la chance de pouvoir être en maison, donc avoir un jardin, pouvoir aller dehors pour s'aérer, tout ça. Mais c'est vrai que je pense aux personnes qui peuvent être en appartement et que du coup, s'il y avait pas de balcon, elles avaient pas cette chance de pouvoir s'aérer. Donc là, je pense que c'était encore plus pesant pour elles. Du coup, moi, je me considère chanceuse d'avoir pu avoir c'est la maison pour pouvoir sortir quand même d'une certaine manière. Après, pesant pour la santé mentale, oui, mais en fait, après, avec on avait tous les cours qui étaient aussi en distanciel, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y avait une part importante d'écran et tout ça dans la vie, en fait, dans le confinement. Donc c'est vrai que c'était pas c'était pesant, quoi, ouais.
Ouais, mais l'absence de mouvement semble, du fait de pouvoir quand même entretenir des relations sociales, avoir pu être un peu nuancé et avoir fait du bien. Marie, je sais pas si toi aussi t'as été confinée, j'imagine.
Oui, effectivement.
On parle de quelque chose qui a eu lieu il y a 4 ans, mais c'est vrai qu'on a un petit peu oublié. Tu te souviens un petit peu de comment tu te sentais à ce moment-là et de les petits plaisirs qui te faisaient du bien pour rompre, pallier à cette absence de mouvement?
Alors, moi, j'étais comme Clémence, j'ai eu la chance d'avoir un jardin chez moi. Donc c'est quand même assez pratique. Et aussi une assez grande maison pour ne pas en avoir marre, on va dire, d'être aussi tout le temps enfermé avec les mêmes personnes. Je pense que ça aide, notamment quand on voit que pendant cette période de confinement, il y a eu une grosse augmentation des violences intrafamiliales. Donc pour le coup, moi, j'ai pas eu j'ai eu cette liberté, on va dire, encore maintenue. Et le fait d'être aussi en campagne, ça me permettait parfois de sortir sans me dire que je vais rencontrer quelqu'un qui me demandera une attestation. Donc c'est aussi bien, enfin ça a été quand même pratique parce que effectivement moi, si je pouvais pas sortir comme ça, je pense que j'aurais explosé vraiment, resté enfermée pendant je sais plus combien de temps ça a duré le confinement, mais ça me paraissait extrêmement long et j'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir retourner en cours pour reparler avec des gens physiquement, parce que n'empêche que ça te fait perdre une partie des liens sociaux quand même. Donc voilà, pareil que Clémence un petit peu, on se retrouve.
La santé mentale, l'affaire de tous. Je crois que c'était le slogan il y a 4 ans des SISM, ou c'est peut-être encore, en tout cas, le thème cette année, en mouvement pour notre santé mentale. Marie, t'avais le micro, on continue à t'entendre puisqu'on va écouter la capsule que tu as réalisée. Tu parles du CRSS et on revient tous ensemble juste après.
Bonjour à tous. Car l'activité sportive n'est pas uniquement pour les personnes jeunes et en bonne santé. Aujourd'hui, Marie Saint-Val, je vais donc vous présenter le Centre de ressources Sport Santé, et plus couramment appelé le CRSS. Ce centre est un lieu d'information destiné à tous les patients ayant une maladie chronique. L'objectif étant d'évaluer sa capacité physique afin de savoir s'il est possible ou non pour les patients de pratiquer ou reprendre une activité physique adaptée à sa forme physique. Concernant l'accompagnement, il commence d'abord par une inscription. Celle-ci se fait en 4 étapes. Car ce dispositif est uniquement sous orientation par un professionnel de santé, il vous faut d'abord en parler à votre médecin, kiné ou autre professionnel de soins. Suite à cela, afin de proposer un accompagnement au maximum adapté à vous, quelques questions seront posées, puis un entretien avec le médecin sera effectué au sein du CRSS.
Une séance avec des professionnels en sport adapté, nommée APA pour ceux qui connaissent, sera proposée afin de faire des tests physiques et évaluer la durée du suivi ainsi que les exercices qui seront le plus adaptés. Par la suite, des ateliers en petits groupes avec débriefing pour clôturer seront proposés jusqu'à la fin du suivi. Le suivi pouvant aller de 3 mois, 6 mois à 1 an. Maintenant, vous devez sûrement vous demander, mais comment continuer une activité physique sans suivi ? Pas de panique. Ce centre est avant tout de l'information. L'objectif est de trouver avec vous une structure de sport adaptée qui propose une activité que vous souhaitez faire ou continuer faire dans un budget adapté. Ce budget ayant une fourchette de 15 euros à 50 euros l'année. Pour clôturer, ce dispositif étant un service public proposé par la direction de la santé publique est gratuit et accessible à partir d'une dizaine d'années. Si le CRSS vous intéresse, vous intrigue ou vous souhaitez juste faire le ou la curieuse, vous pouvez retrouver une page internet sur le site de la ville d'Angers. Autrement, si nous vous avons déjà convaincu, ne vous arrêtez pas là. Vous savez désormais comment faire.
Le quatrième épisode sur une série de 9 capsules des podcasts en lien avec les semaines d'information sur la santé mentale dont nous parlons ce soir dans Topette. On était avec Marie, c'est Marie qui a réalisé cette petite capsule, étudiante à la RIFT avec Clémence, mais pas que, il y avait aussi alors de mémoire Cathy et puis d'autres personnes encore qui étaient impliquées sur ce projet. Marie, quel souvenir tu en gardes de ce projet et quel impact il a eu sur ton cursus? J'imagine que ça t'a permis d'ouvrir un petit peu ton horizon sur ce que tu pouvais savoir, puisque les SISM a pour but de changer un petit peu notre regard sur la santé mentale. Est-ce que ce travail t'a permis de changer aussi un peu ton regard?
Totalement. Pour le coup, je connaissais aucune structure de ceux que l'on a rencontrés avant la SISM. Donc ça a été très enrichissant et même ça a interrogé aussi sur soi-même, parce qu'on a rencontré donc des professionnels en lien avec la santé mentale dans la vie de tous les jours, mais aussi comme je disais tout à l'heure des personnes victimes de qui ont des troubles psychiatriques et aussi des professeurs lambda. Donc c'est vrai que se mélanger tous ces corps de métier, ces visions différentes, ça c'était très enrichissant.
Clémence, toi, on t'a entendu hier avec les enseignants APA. Même question, est-ce que ça t'a permis de changer un petit peu le regard que tu pouvais porter sur la problématique, entre guillemets, le sujet de la santé mentale?
Comme Marie, je pense que la santé mentale, avant, c'était quand même assez flou comme sujet. Ça nous a permis de rencontrer plein de personnes et aussi, pour ma part, aller vers. On a rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de partenaires autour d'Angers. Et du coup, c'était vraiment aller vers, découvrir des associations qu'on connaissait pas, des nouvelles professions. Du coup, les enseignants APA, qui sont des professions récentes, comme je l'ai évoqué du coup, dans le podcast. Et du coup, c'était super intéressant. Et puis, même nos collègues, du coup... Camille, Cathy et Molly, qui sont pas présentes aujourd'hui, ont aussi beaucoup apprécié du retour qu'on a eu, le fait d'aller vers, de découvrir beaucoup de partenaires. Et en fait, même aujourd'hui dans nos stages, pour ma part, en deuxième année, en fait, on a des partenaires qu'on connaît déjà grâce à ces podcasts sur la santé mentale. Et c'était très très bénéfique et positif, en tout cas, de ce qu'on a pu faire ensemble en groupe.
Vous êtes en deuxième année d'études pour être assistante de service social au sens large à la RIFT. Alors c'est la tradition d'Antopette, qu'il y a les SISM qui viennent chaque année. D'un mot, c'est quoi, Marie, en fait, vous vous destinez à quoi comme type de métier? Est-ce que vous allez être confrontée tous les jours justement à ce sujet de la santé mentale?
Alors, nous, on est en études d'assistante de service social. Donc effectivement, on est plutôt avec un public principalement vulnérable. Une santé mentale qui peut parfois être fragilisée à cause des problèmes de tout type de problèmes finalement au quotidien, puisqu'on ne rencontre que les personnes lorsqu'elles ont des problèmes. Donc oui, effectivement, c'est notre quotidien.
Et Sylvain, ça c'est une plus-value incroyable, j'imagine, dans un parcours comme le leur de Marie et de Clémence qui sont avec nous, de pouvoir bénéficier là de ce projet pour justement changer. Et c'est encore une fois le concept des SISM, un peu casser les représentations, les
Il manque le mot, les stigmates, pas les stigmates, mais les stéréotypes, voilà, c'est celui-là, Sylvain.
Oui, effectivement, c'est un partenariat qui est riche, qui nous permet de sensibiliser, nous, des futurs professionnels du travail social avec lesquels on sera amené, que ce soit, qui peuvent travailler, exercer au CESAM, mais même, effectivement, dans des structures qui peuvent accueillir des personnes en situation de handicap psychique avec des troubles ou des juste fragilisés par une situation sociale dégradée, effectivement. Et c'est super important, voilà, de pouvoir avoir ces futurs professionnels là. Je pense qu'ils étaient présents justement au ciné-débat lundi. Il y avait des étudiants de la RIFT, enfin en tout cas des écoles en travail social qui étaient là. Et oui, ça permet d'échanger là-dessus.
Julie, Joséphine, je vous laisse reprendre le micro. Vous qui êtes au quotidien avec des personnes qui sont très stigmatisées dans la société, et là on parle aussi de la santé mentale, quelque chose de simple qu'il faudrait que nos auditeurs auditrices pourraient comprendre sur les représentations qu'on a des personnes qui sont différentes, qui sont en marge de la société, ou alors qui ont des... T'évoquais tout à l'heure les troubles psy, c'est des personnes... Alors c'est ce que disait d'ailleurs Clémence, je refais le lien avec le spectacle de ce soir, Les Friands Effrayés. On n'est pas malade, on a une maladie, ça fait toute la différence, Joséphine.
Oui, c'est la question des étiquettes, qu'est-ce qui nous définit? Est-ce que je suis un détenu? Est-ce que je suis... Alors moi je milite pour qu'on dise une personne détenue, parce que c'est une personne en situation de handicap, une personne qui est incarcérée, une personne qui a des troubles psychiques, ça me définit pas en tant que personne. On a tous un panel de d'identités qui se complètent et qui font la personne que l'on est. Donc voilà.
Donc on n'est pas voilà. Enlever les étiquettes, Julie.
Enlever les étiquettes. Alors je pense que le Covid, il a eu peut-être le seul mérite, en tout cas, de déstigmatiser et de se rendre compte qu'on est tous vulnérables, en tout cas sur le sujet de la fragilité psychique. On a tous été confrontés à l'isolement, du coup, au moins pendant ce confinement. Et c'est ça que je retiendrai, c'est qu'on est tous touchés de près ou de loin, personnellement, dans l'entourage familial, professionnel, par la maladie psychiatrique. Et plus on en parlera, plus on libérera la parole et moins on stigmatisera.
Joséphine ?
Et peut-être ajouter que les personnes qui sont atteintes de troubles, il y a ce stéréotype, tu disais tout à l'heure, autour de, ben, finalement, c'est des gens qui sont dangereux. Il faut savoir que les personnes qui sont atteintes de troubles mentaux au sens très large sont des personnes qui sont beaucoup plus dangereux pour elles-mêmes que pour les autres, en fait. On a cette image-là de, voilà, un fou furieux qui vient nous agresser ou que sais-je. En fait, c'est pas la vérité. Les personnes qui sont atteintes de troubles psy vont avoir une prévalence, du coup, un risque de passage à l'acte auto-agressif beaucoup plus important et tout un tas de vulnérabilités qui font que finalement, c'est l'affaire de tous que de pouvoir déstigmatiser cette question. Pour lutter contre, en fait, puisque comme on le disait, enfin voilà, on l'a dit un peu en fil rouge, l'isolement c'est un des plus gros, un des plus gros problèmes. Bah, l'idée c'est comment est-ce qu'on fait pour aller à la rencontre. J'ai entendu aller vers. En tant que psychologue, on cherche beaucoup à aller vers les gens, et je pense que c'est quelque chose qui est important.
Oui, et puis je pense qu'il suffit de regarder les... Voilà, si on a peur de se faire tuer par un fou furieux, ça c'est un peu le stéréotype qui traîne. Regardez simplement les causes principales de mort en France, c'est pas ça. Voilà, donc ça peut être un point objectif pour se rassurer. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de l'émission. Julie, Joséphine, Sylvain, Marie et Clémence. Alors Clémence, suite de ton parcours maintenant pour tes études, là, on troisième année l'année prochaine, et puis après on va tout de suite dans le milieu professionnel ou pas?
Oui, normalement encore une année, cette année, l'année d'après, 3 ans d'études pour devenir assistante de service social, et après, on verra où est-ce que le vent nous mène avec Marie, dans quelle branche on ira travailler.
En tout cas, bravo à vous, ce sont des beaux métiers, des métiers nécessaires et utiles à la société, tout comme celui de Julie et de Joséphine, infirmière psy et psychologue en milieu carcéral. Sylvain, tu voulais reprendre le micro aussi pour conclure sur la suite du programme des CSM, ou en tout cas, où retrouver les informations à propos?
C'est ça, effectivement, on peut retrouver toutes les informations sur le site des CSM, www.santé-mentale.fr, ou sur le Facebook SISM49. Et puis on vous invite, voilà, sur ce temps fort, justement on parlait de déstigmatisation, sur le village Bouger pour ma santé mentale mercredi prochain, où il y aura plein d'infos, plein d'activités à disposition de tous.
Et s'il n'est pas trop tard, là, il est quasiment 19h, vous pouvez encore aller sur Eloasso, non, peut-être, pour réserver une place?
Effectivement, encore pour le spectacle de ce soir, L'Effrayante Effrayée, où on aborde les troubles psychiatriques pour les jeunes, notamment. Voilà, donc avec un temps d'échange derrière, au centre Jean Villard.
Merci beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup de monde. J'ai envie de redonner la parole à tout le monde, mais du coup, on va devoir rendre l'antenne. Merci Julie, merci Marie, merci Sylvain, merci Joséphine et merci Clémence, mais aussi merci à Camille, Cathy et Molly qui ont aussi participé aux chroniques, aux podcasts qu'on écoute et qu'on diffuse tout au long de la semaine et de la semaine suivante. Si vous voulez prendre de l'avance, c'est déjà en ligne sur Podcast Plus sur le site internet de radio-g.fr. Merci Nolwenn. Nolwenn, on se retrouve lundi prochain. Voilà, on sait pas, tu feras pas le flash, mais on va voir ce que tu vas faire. On sera pas non plus nos invités, mais on aura des invités. Rassurez-vous, prenez soin de vous, passez un bon week-end. À lundi et topette!
C'est tout.